Ce film audio provient d'un travail de recherche en sciences humaines et sociales mené tout au long de l'année 2021. Nous avons étudié les effets de la pandémie de la Covid-19 sur les jeunes migrants isolés et les salariés bénévoles présents à leur côté.
Les jeunes migrants isolés que nous avons rencontrés sont des jeunes mineurs non accompagnés, appelés MNA, et des jeunes réfugiés de moins de 25 ans. Nous avons travaillé avec trois associations, la Croix-Rouge, RESF et la CIMAD. Elles partagent une mission commune d'accompagnement aux personnes migrantes, mais qu'elles concrétisent à travers des projets diversifiés. Leurs équipes sont composées de bénévoles ou de salariés. Nous avons récolté leurs paroles autour d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs, dans une démarche scientifique où l'ensemble des acteurs co-construisent les données de la recherche.
L'ensemble des prénoms a été modifié pour respecter l'anonymat des participantes et participants. Les discours que vous allez entendre nous invitent à réfléchir dans ce podcast sur l'engagement des accompagnantes et accompagnants. Un engagement à l'épreuve de soi, de l'autre et de la Covid-19. Pourquoi s'engager bénévolement ? Pourquoi choisir une carrière professionnelle dans le social ? Quelle est la relation avec le public accompagné ? Et comment maintenir une bonne distance ? Ces questions ont jalonné nos rencontres au cours de cette étude. S'engager pour la cause migratoire, une relation aux personnes migrantes et à soi.
Vous allez entendre les récits de Margot, Manon, Iris, Julie et Isabelle, toutes bénévoles ou salariées d'une association d'aide aux personnes migrantes. Entre mobilisation citoyenne, fibre militante, vécu personnel et carrière professionnelle dans le social, leur engagement individuel traduit l'urgence collective à penser autrement la situation des jeunes migrants isolés aujourd'hui en France. Certaines s'engagent comme Margot et Manon par sensibilité à la cause migratoire. Le passage à l'action étant souvent lié à un élément déclencheur tel que la crise sanitaire.
Il y a deux causes en fait qui me touchent, c'est effectivement la cause des migrants, la problématique autour de ça. Si je pouvais, si j'avais pas trois enfants, une famille, etc., je pense que j'irais sur la Méditerranée, quoi. Mais bon, voilà, je peux pas. Et puis à la cause des femmes aussi. Et j'avais d'ailleurs approché en fin d'année dernière le centre de ressources. Et d'information, droits des femmes, je ne sais plus, c'est ID, je ne me rappelle jamais l'acronyme, mais voilà. Et en fait, ça fait plusieurs mois que je les avais approchés, mais ils avaient dit non, on ne prend plus de bénévoles en ce moment, Covid, machin, etc., on ne fait plus. Donc j'avais été un peu recalée là. Mm-hmm. Et puis en parlant avec une personne de ma famille, elle me dit mais est-ce que tu ne connais pas la CIMAD ? C'est une association dont moi j'ai entendu parler qui fait beaucoup pour les migrants, etc. Et donc tout à fait par hasard, je suis allée sur leur site et tout à fait par hasard, j'ai découvert une annonce, alors que j'ai donc vu, je pense, en décembre, mais qui datait de peut-être mars ou je ne sais plus, enfin, vraiment des mois et des mois, qui disait qu'il cherchait en fait des bénévoles pour l'enseignement du français. Et je me suis dit, ça, c'est peut-être dans mes cordes. Parce que jusque-là, moi, je me disais, bon, les migrants, oui, certes, je ne peux pas aller sur la Méditerranée pour des contraintes techniques, on va dire, familiales. Mais je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Sinon, j'avais déjà pensé à faire des cours de français pour les illettrés, mais je n'avais pas forcément conscience qu'il y avait des cours de français pour les migrants. Je me disais, en tout cas, je ne suis pas juriste, je n'ai pas tout ça, donc je ne peux pas les aider dans les démarches. Pour moi, c'était surtout ça dont ils avaient besoin. Enfin, je n'avais pas réfléchi qu'ils pouvaient avoir besoin d'autre chose aussi. Si ce n'est peut-être d'hébergement, j'avais envisagé aussi peut-être qu'on prenne quelqu'un chez nous. Bon, pour l'instant, j'ai encore un fils qui est à moitié là, à moitié pas là, donc sa chambre n'est pas vraiment disponible. Et voilà. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça, c'est dans mes cordes. Et j'ai donc contacté la CIMAD. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'elle cherchait pour des mineurs non accompagnés. Et là, je me suis dit, c'est encore mieux, en fait. Parce qu'en plus, bon, c'est vrai qu'en Australie, j'ai eu affaire à des jeunes à peu près de cet âge-là. C'était au lycée. Je suis moi-même mère d'ado. Et voilà, ça me parlait, ce public-là, quoi.
Du coup, c'est lié à la situation Covid, mais parce que j'avais un postdoc que j'avais commencé à l'étranger, mais qui du coup a un peu capoté avec le Covid, dans le sens où j'ai demandé à rentrer en France parce que tout était fermé là où j'étais. Donc je suis rentrée et puis je me suis dit que ça, du coup, c'était une bonne opportunité pour m'investir un peu dans l'associatif parce que voilà, j'avais aussi envie d'occuper les journées avec autre chose que la recherche. Et donc et je connaissais déjà la CIMAD un petit peu. Et les cours de français, ça me plaisait vraiment parce que c'était l'idée d'être vraiment en interaction avec le public. Et donc c'est comme ça que je les ai contactés, parce qu'ils cherchaient aussi des bénévoles. Et à la base, ils cherchaient. En fait, moi, j'ai répondu à une annonce où ils cherchaient explicitement des gens pour les mineurs non accompagnés. Et parce que ça m'intéressait vachement ce public-là, même si j'avais jamais fait. Mais je trouvais que c'était une super expérience. Et au final, j'ai commencé quand même d'abord avec les adultes parce que le projet n'était pas encore en place. Et je pense que c'était ça qui me plaisait aussi, c'est de créer véritablement un lien en fait, avec ces personnes-là et pas seulement d'être juste dans l'aide peut-être, de vraiment chercher une interaction. Et puis aussi concrètement de se sentir aussi très utile. Hein. Parce qu'ils savent très bien, et nous aussi on sait très bien, que leur intégration et leur régularisation va aussi passer par le français. Donc forcément, il y a une gratification qui n'est pas du tout la même. Parce que tu te dis, là tu les aides vraiment très très concrètement à essayer de construire leur vie en France, ou en tout cas un bout de leur vie en France, en leur donnant des cours de français, en les aidant à potentiellement trouver du travail. C'est aussi l'idée d'être utile, en fait. Hein.
L'engagement peut aussi relever d'une expérience intime, un vécu personnel et un parcours de vie où la cause migratoire s'est initiée à différents moments.
Paru évident, mais je ne sais même pas pourquoi ça m'a paru évident, parce que peut-être je suis moi-même une produit de l'immigration, j'en sais rien, parce que j'avais dans l'école de mes enfants aussi des problématiques de jeunes que j'ai découvert un peu par hasard, hein, parce que on ne le sait pas forcément, on aperçoit tout d'un coup un petit comité de soutien devant une école, je suis allée les voir et j'ai vu que c'était RESF et je me suis... D'accord. J'étais dans le Neuilly local, où normalement tout le monde était intégré, où ces difficultés étaient plutôt tues par la municipalité.
Pour certaines, la cause migratoire s'est inscrite dans le parcours professionnel, parfois par hasard, mais ayant suscité par la suite un réel intérêt, et d'autres fois dans la continuité d'années d'expérience au contact de publics vulnérables.
J'ai eu un entretien style speed dating, mais pour l'emploi. Et c'était la Croix-Rouge, on était genre 35 candidats et on devait se présenter en 15 minutes et voilà quoi. Donc j'ai commencé à la Croix-Rouge deux mois, trois mois, dans un foyer.
Ah oui.
À la Croix-Rouge.
De quel type de public ?
Personne à la rue.
Ah d'accord, ok.
Au départ c'était pour 3-4 jours, puis c'était remplacement, il y a tellement d'arrêts maladie dans ce métier que je trouve toujours une place après. Et ensuite ma chef a été contente de moi et à ce moment-là elle me dit si ça t'intéresse, il faut que tu aies un rendez-vous avec le directeur. Donc j'ai eu un rendez-vous de 10 minutes qui m'a dit ok c'est bon, vous pouvez commencer la semaine prochaine. Et donc voilà comment j'ai atterri ici.
Toi t'avais déjà eu une première expérience professionnelle ou associative ou militante auprès des personnes migrantes, c'était un public qui t'a
pas du tout.
Pas du tout, c'était la découverte, quoi.
Ah oui, moi, c'était les personnes à la rue, c'était mon truc, quoi. Et puis, bon, comme j'ai galéré tellement à trouver du boulot et financièrement, ça m'a arrangé bien, et voilà.
Et ok.
J'ai toujours été dans le milieu social. Et je me rappelle, à l'époque, on parlait beaucoup de ce qui se passait à Calais. C'était les années...
Les années 2010 ou même avant, encore plus tôt.
Ça devait être 2008 ou des choses comme ça, quoi. Et bon, moi, j'avais pas le temps, j'étais trop prise par mon activité professionnelle, mais je m'étais dit, le jour où j'aurai du temps, je m'en occuperai. Et c'est ce que j'ai fait en 2010. Ouais. Et puis, se dire que même quand on croit que rien n'est, enfin, que tout est perdu, c'est un combat qui a été gagné. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours motivée, quoi, en fait. Mmh. Se dire, même si on part de très loin, on peut y arriver, quoi. Voilà, alors peut-être j'ai pris les publics les plus éloignés finalement de tout, quoi. Parce que c'était éloigné de l'emploi, ils n'ont pas de statut dans la société, ils n'ont pas. Enfin, pour moi, c'était ceux qui étaient les plus laissés pour compte.
Cet engagement pour accompagner des jeunes migrants isolés, sans famille en France, souvent criminalisés dans les médias, discriminés dans l'espace public et dans les administrations en charge du système d'asile, rassemble l'ensemble des bénévoles et salariés que nous avons rencontrés. Toutes et tous témoignent également du bénéfice direct qu'ils tirent des échanges avec les jeunes et des activités partagées. Nous avons assisté à deux ateliers podcast avec les jeunes EMENA et les bénévoles de la CIMAD qui les accompagnent. Des moments de partage et de rire comme en rencontre Élise.
C'est hyper sympa, ces moments où des fois il y a des éclats de rire pendant l'atelier, où entre eux ça va se vanner, ils vont se moquer les uns des autres, mais vraiment avec de bonnes intentions, c'est pas du tout déplacé. Et c'est ces moments-là où on se dit si on a pu apporter à un moment donné un peu aussi de fun dans la journée,
de détente.
Voilà, Moi, je leur ai dit dès le début, je dis, c'est pas un cours, on n'est pas là pour faire de la grammaire, de l'orthographe et tout ce que vous faites déjà avec les autres bénévoles pendant vos cours. Cet atelier, c'est aussi un moment de rigolade et de fun et de penser à autre chose. Mmh. C'est votre moment. Donc, en fait, c'est vous qui vous en saisissez et vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez des choses à dire et parce que vous êtes en colère, et ben c'est le lieu. Si vous avez envie de dire des trucs rigolos parce que vous avez besoin de rigoler, et ben aussi. Et voilà, et c'est un moment pour passer du bon temps. Donc si ça marche et s'ils viennent, je me dis que c'est quelque part, ils passent un moment agréable, donc tant mieux quoi.
Manon et Charlotte, également bénévoles à la CIMADE, nous font part de l'importance pour elles de ce travail avec les jeunes.
L'accompagnement avec les mineurs me plaît beaucoup. Ouais. Parce que justement, c'est une énergie et de voir le lien qui se crée, c'est juste magique, quoi. Vraiment, il suffit de passer une mauvaise semaine. Je sais que le samedi, voilà, les cours, ils vont me rebooster, quoi. Je sors du cours et j'ai l'impression d'avoir oublié ce qui s'est passé dans la semaine et de me dire « Ah, c'était bien, en fait. » Et ça fait vraiment... En fait, c'est ça, c'est que je pense qu'on leur fait du bien à eux, mais en fait, il faut pas se cacher, enfin, il faut pas se leurrer, ils nous font aussi beaucoup de bien, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans une situation où on est bénévole et on donne tout notre temps comme ça parce que ça nous fait plaisir. Non, c'est parce qu'on en ressort quelque chose qui est hyper gratifiant et que, en fait, pour nous, c'est, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est que c'est aussi utile pour moi, quoi. Ouais. Parce que je me sens utile. Et en même temps, ils me font du bien avec les échanges qu'on a. C'est toujours des moments où je ressors, où je me dis « Ah ouais, purée, c'était une heure et demie, mais c'était vraiment cool, quoi. On a eu des super discussions. Et il n'y a jamais un moment où je suis sortie du cours en me disant « En fait, peut-être que je vais arrêter ou j'ai pas envie d'aller au cours suivant, quoi. » Donc, j'espère pouvoir continuer, en tout cas, tant qu'il y aura ce partenariat-là. Ouais. Parce que c'est vraiment top, quoi.
Une fois par mois, on avait une supervision avec une psy. Et puis, on avait des cours un peu comme à la CIMADE. Hein, on était suivis comme ça, voilà. Mais j'ai tenu bon parce que j'y ai été pendant plus de 4 ans, alors que j'habitais à 60 km de Paris. Et après mon boulot, j'y allais.
Ah, quand même. Ah oui, sacrée implication, oui.
Non, mais moi, je suis motivée, je ne sais pas, parce que je me sens utile dans le rapport aux autres. J'ai besoin de ça.
Pour les salariés, cet engagement va bien au-delà de leur fiche de poste et de la durée de leur contrat, ce qui les amène à poursuivre comme bénévoles. Béatrice en témoigne.
C'est vrai que du coup, il y a un lien chaleureux, qui est distant, hein, parce qu'on n'est pas... Mais quand même, c'est pas des amis, mais c'est des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection et de respect. Et si je peux, de la place où je suis, poursuivre quelque chose... Autant avant, je n'aurais jamais invité chez moi parce que j'étais salariée de la Croix-Rouge et qu'il ne faut pas... Maintenant, par exemple, quand il n'y a plus de place ici pour les ateliers, ben moi, j'ai la chance, j'habite dans un quartier où on peut avoir des espaces un peu grands. Et ben, du coup, j'ai fait des ateliers à la maison, on fait des sorties. Je faisais déjà avant, mais je continue à en faire, ne serait-ce que pour le book, avoir des photos, pour des choses qui se prolongent. Encore une fois, pour les occuper. Parce que quand ils sont... Moi, je vois bien, j'ai du mal à les voir comme ça chez eux, déprimés, et de me dire, ben, on a commencé des choses. Du fait de cet arrêt de contrat, enfin, moi je l'ai hyper mal vécu par rapport à ça, parce que tu avais plein de choses qui étaient construites, et puis tout d'un coup tout va s'arrêter. Et pour moi, ça n'avait aucun sens.
Lucie explique la nécessité d'un militantisme pour faire avancer les projets associatifs.
Mais oui, c'est un gros succès, bien sûr. Bien sûr, c'est énorme. Et leur parcours, est-ce qui a été fait ? Et après, je vais revenir sur quelque chose que j'ai déjà évoqué plusieurs fois avec l'équipe. Je pense aussi que c'est un gros succès parce que les membres de l'équipe, au départ, je ne sais pas, en même temps, avaient un engagement militant. Donc, forcément, on donnait plus d'heures, on donnait plus de temps, on s'y sont impliqués. Si ça avait été à l'époque que des simples salariés, on n'aurait pas le même résultat aujourd'hui. Voilà, il y a eu cet investissement militant. Et qui fait partie du succès. J'aurais eu juste au départ une équipe qui aurait fait ses 35 heures en disant « Moi, ce soir, c'est fini », ça n'aurait pas marché. Donc il y a aussi pour moi une ambiguïté, on parlait de l'institution, mais aussi une ambiguïté de finalement la réussite du projet est sur quelque chose aussi qui... Normalement, on n'a pas besoin, pour ses missions, d'être militant.
Hein,
voilà.
On déborde.
On est des salariés. Mais ce projet a eu besoin de cet engagement marginal, militant, pour être le succès qu'il est.
Ce militantisme se révèle dans les moments de crise, tels que celle provoquée par la pandémie de Covid-19. Toutefois, l'ancienneté des bénévoles et des projets conditionne, dans une certaine mesure, la capacité à maintenir du lien avec les publics accompagnés dans ces moments de tension. Comme nous l'explique Manon, il a été très difficile de maintenir un lien avec les jeunes EMENA durant les confinements.
Et donc il fallait aussi qu'ils comprennent pourquoi nous on est là, ce qu'on vient faire, et puis qu'il y ait un lien de confiance qui se crée en fait, parce qu'au début, on arrive, on débarque dans leur vie, c'est des jeunes qui sont très sensibles au niveau des informations qu'ils donnent, au niveau de ce qu'ils ont vécu. Et au cours de français, on est là aussi pour les faire parler, donc c'est quand même assez compliqué. Et puis voilà, il a fallu du temps pour que ce lien de confiance il se crée et qu'il y ait vraiment un lien maintenant qu'on a réussi quand même à mettre en place entre eux, chacune, parce qu'on n'est que des filles pour le moment, chacune avec ses apprenants dans son groupe, quoi. Et le confinement n'a rien arrangé parce qu'on ne pouvait plus avoir accès aux cours en présentiel. Donc on était passé sur des cours sur WhatsApp et ça a été quand même un fiasco.
Quand la société est mise à l'arrêt, que nous nous replions sur nous et notre famille, ces jeunes migrants, faisant déjà face à des vulnérabilités diverses, se retrouvent bloqués dans leur parcours d'insertion. Les bénévoles et salariés deviennent alors leur seul interlocuteur avec le reste de la société. Yanis, jeune réfugié érythréen, témoigne des difficultés à vivre cette période de confinement, malgré l'aide apportée par les travailleuses et travailleurs sociaux de la Croix-Rouge.
Sur WhatsApp, elle a commencé à nous envoyer des liens, des activités, des exercices, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, nous étions très stressés. Donc, même si on essayait de tenir le coup, nous ne pouvions l'accepter facilement parce qu'à ce moment-là, c'était difficile de l'accepter à cause de la situation et de tout ça. Mais oui, elle nous envoyait tous les jours des messages.
Les propos de Julie et Marc traduisent ce rôle d'acteur au cœur des sociabilités de ces jeunes isolés socialement et spatialement.
Et après le deuxième confinement, la suite d'octobre, je me rappelle, je leur ai annoncé, ils étaient une dizaine ici, ils étaient sur la terrasse là-bas, je leur ai dit, ben voilà, demain Emmanuel Macron il m'a parlé, peut-être qu'on va être confinés encore. Et ouais, on a plein qui m'ont dit, on va jeter par la fenêtre. Bon, c'était pour me rigoler, mais c'était des mots qu'ils employaient parce qu'ils savaient que dire que ça, mais... Et on va devenir fou, ça va pas. Et puis il y en a plein que je croisais des fois en ville, marcher. Je disais, mais t'as pas le droit d'être là. Mais oui, mais je stresse, il faut que je sorte. Enfin...
Donc il y a eu un tas d'initiatives. Il fallait aussi avoir des autorisations pour se déplacer. Donc on avait une autorisation type, quoi. Voilà, donc c'était une période de forte activité des bénévoles, puisqu'ils restaient en premier plan. Il n'y avait pas d'autres.
Un lien très fort peut se nouer entre bénévoles, salariés et publics migrants accompagnés qui surpassent le cadre professionnel ou associatif et qui explique en partie le succès des missions que nous avons pu suivre. En effet, durant la crise sanitaire, bénévoles et salariés ont redoublé d'efforts pour maintenir un contact avec les jeunes malgré les restrictions.
Qu'il s'agisse de continuer de se rendre dans les lieux d'hébergement durant les confinements, de mettre en place des dispositifs d'urgence alimentaire, d'assurer des formes d'insertion minimales comme l'apprentissage de la langue française ou l'avancée des procédures administratives, ces accompagnantes et accompagnants n'ont pas compté leurs heures. C'est grâce à leur travail que les missions et projets que nous avons étudiés ont perduré malgré la crise.
Toutefois, ces manières de s'engager produisent aussi des situations de vulnérabilité pour les jeunes migrants isolés, mais également pour ces accompagnantes et accompagnants, qu'ils soient bénévoles ou salariés. Au-delà de la crise sanitaire, leur récit met en avant une surcharge de travail et une surcharge émotionnelle, qui interroge quant à la bonne distance relationnelle à construire et à conserver dans le temps entre professionnels, bénévoles et publics migrants.
Face au récit douloureux des trajectoires d'exil des jeunes accompagnés, les nouvelles et nouveaux bénévoles peuvent avoir des difficultés à gérer leurs émotions, comme en témoigne Margot.
J'étais préparée, mais je vous avoue que quand je les ai vus, ces gamins, les premières fois où on n'a pas parlé de ça du tout, peut-être par réflexe de défense ou de protection, je ne sais pas, je me suis dit non, mais non, ils n'ont pas dû vivre ça. C'est pas possible parce qu'ils ont l'air quand même vachement bien, quoi. Enfin, je veux dire, équilibrés, ouverts, pas dans la méfiance. Et je me suis dit, je crois que je me suis un peu raconté une histoire qui m'a un peu rattrapée quand on a commencé à, justement, ils ont commencé à se livrer, en me disant, moi, je pense que peut-être ça n'a pas été si compliqué pour eux. Même le fait d'imaginer qu'ils ont pu traverser en bateau, c'est débile, hein, évidemment qu'ils ont dû traverser en bateau. Je ne vois pas comment c'est possible, ils n'ont pas pris un avion. Voilà. Mais même ça, je crois que je m'en protégeais en me disant, non, enfin ça s'est bien passé pour eux, mais non, en fait, non. Là, je me rends compte que non, c'est bien ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on entend, ce n'est pas vrai. Et ouais, ça, c'est un peu violent, ouais, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça, c'est pas que j'en ai honte, mais ça me gêne parce que je sais que voilà, j'ai l'âge que j'ai, je suis pas non plus tombée de la dernière pluie et tout, mais c'est compliqué émotionnellement à gérer pour moi.
Face à des jeunes en situation de vulnérabilité, les bénévoles ne doivent pas se laisser emporter par leur affect, comme nous l'explique Iris.
Alors ça, c'est un peu plus difficile à gérer en fait. Et c'est pour ça que je viens le mercredi, parce que des fois, on serait tenté de s'y perdre un peu dans cette relation que demandent certains jeunes. Et quand je vois que c'est trop fort, quand je vois que qu'il y a un risque de s'y perdre pour le jeune comme pour moi, je demande à quelqu'un de revenir. Normalement, on est censé s'occuper des jeunes à deux, mais on n'y arrive pas. Toujours à un moment où quelqu'un prend de l'avance, à passer un coup de fil au lycée, à rendez-vous avec le proviseur. L'autre personne n'est pas toujours là. Donc on commence la démarche d'inscription, par exemple, dans un lycée. J'en ai inscrit quelques-uns. Et après, on est tout seul. Donc le jeune vous appelle, vous devenez son tuteur. Donc vous recevez tous ses bulletins. S'il est absent, c'est à vous qu'on écrit. Ensuite, s'il veut faire une formation, il faut trouver le CFA. Donc on tire un fil et après, c'est une énorme pelote. Parce que c'est des jeunes. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de parents. Donc vous vous retrouvez à faire ce que vous avez fait pour les vôtres. Mais pas de la même façon, avec une distance obligatoire. Qui est difficile à garder. Mais voilà, le collectif, c'est ça. Il faut revenir toujours au collectif pour dire « Attends, là, celui-là, c'est trop envahissant. » On en a vu quelques-uns hein, qui se sont impliqués trop loin avec des relations qui devenaient... Enfin, on n'est pas des parents. On ne peut pas l'être. Et ensuite, c'est vraiment des jeunes enfants. Et leur formation, ils sont pas finis non plus. Ils se reposent sur nous, mais... faut essayer de pas soigner quelque chose chez nous faut essayer de maintenir un équilibre dans cet échange. On s'appuie sur eux parce qu'ils sont quand même, ils nous aident à nous les aider parce qu'ils sont demandeurs, parce que c'est facile de s'occuper d'eux, parce qu'ils sont, enfin vous avez dû en rencontrer hein, ils sont à l'heure, ils se moquent pas de vous, ils sont volontaires pour la plupart, hein, ceux qui en sont là, hein, quand on leur trouve une place dans les lycées, c'est assez facile de s'occuper d'eux parce qu'ils sont très résilients, ils ont dépassé des obstacles que peu d'êtres humains arrivent à faire. Et donc une fois qu'ils arrivent sur des anges gardiens, comme ils nous appellent, c'est vrai qu'ils sont, ils s'accrochent. D'ailleurs, on s'occupe que de ceux-là. Les autres, on les voit partir. Hein. Peut-être qu'on n'a pas non plus le chiffre de ceux dont on s'est occupé et qui sont partis et qui sont peut-être perdus ailleurs. Hein. Ça, c'est un peu ce qu'on n'arrive pas à faire, en fait.
Ce travail d'introspection nécessite pour beaucoup un appui de l'association, ce que Julie et Isabelle mettent en avant.
C'est énorme. Je me disais, c'est pas normal que je sois toute seule. Et j'insistais, et surtout... Les jeunes, ils me racontaient des trucs, mais ils me montraient des vidéos de ce qui se passait en Libye ou de leur torture. Et moi, j'étais pas prête à voir des choses violentes comme ça. Et je me rappelle, je disais plusieurs fois, j'aimerais bien qu'il y ait un psy ou quelque chose. Parce que dans le social, souvent, on a des analyses de pratique avec des psychologues, etc. Au CCAS, il y avait ça, par exemple.
Je la vis de façon peut-être plus distanciée parce que j'étais travailleur social. Et je me rends compte que, en fait, moi, je sais où sont mes limites, quoi, en fait. Hein. Je sais les moments où il faut arrêter, il ne faut pas être trop... Bon, des fois, on est débordé, hein. Comme quand on reçoit, ça nous est arrivé souvent à Mélanie, dernière minute de la permanence, un jeune qui arrive et je suis dehors, je vais dormir dehors, il fait froid, c'est pas possible, on ne peut pas laisser comme ça. Donc, au dernier moment, bon, ben là, on se met en quête d'un abri, d'une solution, enfin, voilà. Là, on ne peut pas rester indifférent, mais bon, c'est vrai qu'on a toujours été à deux doigts de les prendre chez nous au dernier moment, mais bon, on essaye en général pas le faire, quoi, en fait. Parce que c'est...
Donc, ça va, vous avez une bonne...
Oui.
Endurance.
Moi, ouais, je ne sais pas si c'est l'endurance, c'est, je sais pas, une prise de distance qui est, voilà, qu'il faut avoir, qui est importante, parce que si on se laisse complètement accaparé, happé, et on est et on tient pas le coup, on tient pas le choc, quoi, en fait. Et puis bon, on a des à la fin de chaque permanence, on fait ce qu'on appelle un débriefing, parce que c'est important pour que tout le monde puisse raconter ce qu'il a vécu avec un tel, et puis on se donne des conseils, ou tu aurais dû dire ça, tu aurais dû faire ça, et puis ça permet aussi de voilà, c'est un exutoire. Bon, et puis moi je sais qu'au début, quand j'ai démarré, il y avait un groupe de parole qui se faisait, ce qu'on appelait l'analyse de la pratique.
Le besoin de s'appuyer sur un cadre pensé par l'association est d'autant plus important lorsque les missions d'accompagnement se réalisent dans l'espace privé. C'est notamment le cas des bénévoles qui accueillent et hébergent des jeunes à leur domicile. Iris nous explique comment les relations entre bénévoles et jeunes dans ce contexte peuvent, à l'opposé de l'effet escompté, exacerber certaines vulnérabilités et surtout désavantager les jeunes migrants dans leur parcours d'insertion en France.
C'est un sujet... Vous disiez que si vous écoutiez, la maison était pleine et donc vous a toujours retenu. Parce que la principale raison, c'est que je ne suis plus dans une structure familiale. Mes enfants ne sont plus à la maison, je vis seule. Et que je trouverais ça trop triste pour un jeune de vivre avec une vieille comme moi. Donc, je me l'interdis. Par contre, je m'étais rapprochée de Singa, une association qui fait de l'accueil de demandeurs d'asile. Et qui cherchait des hébergeants, et je me verrais plus accueillir un adulte, une jeune femme, ou que nos mineurs à nous.
En court terme, un peu comme il y a Radi aussi.
Les demandeurs d'asile, le temps est borné, donc on sait que ce sont des adultes, à un moment donné, ils vont partir, alors que nos jeunes, il y en a qui ont commencé à les héberger, notamment une femme dans l'association, qui est avec lui depuis 3 ans. Et il n'arrive plus à la quitter, et elle n'arrive plus à le laisser partir. Et ça pose un vrai problème. Parce qu'il végète un peu. Elle, on la soutient financièrement parce qu'elle a une toute petite retraite. Mais il s'est créé un lien, quelque chose d'indéfectible, une boule de sensibilité, là. Et on a eu plusieurs fois, on a abordé la question en réunion, mais il faudrait qu'il parte pour lui. Comme on conseille à des parents de laisser partir leurs enfants. Et le problème, c'est qu'il n'a pas tellement peu d'outils dans sa boîte à outils pour partir. Et donc, il s'est créé un truc pas très, très vertueux, je trouve. Donc, je m'interdis d'héberger, mais plusieurs fois, si on ne m'avait pas empêché, j'aurais des jeunes chez moi. Mais je ne le fais pas. Parce que proposer quelque chose pour 15 jours, on sait que si on prend le jeune chez nous, comme il n'y a rien... Il n'y a pas de plan B, ça risque d'être très long et ça je ne veux pas. Parce que j'aurais mes enfants, j'aurais pas du tout hésité. J'en aurais qu'à les deux dans la même chambre avec mes enfants et il y aurait eu une petite famille, il y aurait eu du mouvement, il y aurait eu ce bain-là, on ne sent même pas un troisième. Mais seul, c'est autre chose.
Notre travail de recherche nous a permis de comprendre le quotidien de femmes et d'hommes mobilisés pour une cause qui suscite de nombreux débats au sein de notre société. Ils nous ont livré une partie de leurs sentiments et sont revenus sur les bénéfices qu'ils retirent de leur engagement. Leur implication suscite l'admiration, mais interroge également les dérives entraînées par le manque de cadre qui relève de la responsabilité des associations. Bénévoles et salariés méritent un accompagnement.
Pour que la relation entre bénéficiaires et accompagnants reste objective, saine et durable, des outils et des cadres sont nécessaires. Les associations doivent les créer, les organiser et les évaluer en continu. Dans un contexte national où elles fonctionnent avec des moyens réduits pour effectuer une mission de plus en plus exigeante, la crise sanitaire a mis en avant l'intérêt de réinventer certaines pratiques. De cela dépend le bon accompagnement dont les jeunes migrants ont besoin et l'équilibre psychologique des accompagnants.
Ce podcast est une invitation à développer ensemble, chercheurs, associations et publics accompagnés, de nouvelles façons de faire. Une réelle réflexion sur la gestion émotionnelle et sur ce qu'implique le travail auprès de populations vulnérables doit être menée.
Alors que la pandémie de Covid-19 a suscité des vocations, nous nous interrogeons également sur l'implication dans le temps long. La gestion d'urgence de la crise sanitaire ne doit pas faire oublier les enjeux globaux auxquels font face les personnes que vous avez écoutées, qui méritent notre réel soutien.
Si vous souhaitez en savoir plus, des publications seront prochainement disponibles.
Le projet de recherche a été financé par la Maison des sciences de l'Homme Sud, la Fondation Croix-Rouge française, le fonds de dotation de la Compagnie Fruitière, l'UMR Ardev et NARO. Un film audio d'Anaïs Troussel et Itane Lacrampe-Camus de l'équipe NARO, avec la pluie d'Antoine Bourlier et de Pierre-Olivier Gomin.